Corinne Herskovitch, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron a surpris son monde en novembre dernier en annonçant à Ouagadougou vouloir restituer son patrimoine à l'Afrique. Comment avez-vous réagi à cette promesse ?
J'avoue avoir été très surprise par l'annonce. Et puis, il a fallu un temps de réflexion pour comprendre un peu ce que ça pouvait avoir pour conséquence, pas seulement dans ce qui est exprimé, c'est-à-dire une restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain à l'Afrique, mais dans tout ce que ça pouvait avoir pour conséquence dans les réflexions, les échanges, les dialogues et la mentalité d'un côté et l'autre, c'est-à-dire en France et en Afrique, face à cette question de la relocalisation du patrimoine culturel.
Restituer temporairement son patrimoine à un autre pays, ça veut dire quoi concrètement? Qu'on lui prête des œuvres pour une période déterminée?
Alors, ce qu'on a comme précédent sur une restitution temporaire, c'est la fameuse histoire des manuscrits coréens. Les manuscrits coréens avaient été rapportés de Corée en 1866 à l'occasion d'une expédition punitive. En 1975, des chercheurs coréens s'aperçoivent de la présence de ces manuscrits à la Bibliothèque nationale. Et puis commence toute une discussion entre les Français et les Coréens, les scientifiques, sur ces manuscrits. Et en 1993, François Mitterrand va en Corée négocier des accords économiques et emporte avec lui trois manuscrits. Il est accompagné par un conservateur de la Bibliothèque nationale. Et lorsque, dans le cours des négociations, il en donne un aux Coréens, le conservateur est complètement désespéré, et la discussion revient en 2010, lorsque Nicolas Sarkozy entretient de nouveau des relations importantes avec la Corée, et au G20 en 2010, il s'engage à restituer l'ensemble des manuscrits. Le problème était que la loi française s'opposait à cette restitution, avec ces deux piliers de protection du patrimoine national que sont l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Et donc Nicolas Sarkozy a imaginé de faire un prêt à long terme à la Corée. Et donc les manuscrits sont rentrés en Corée sous la forme d'un prêt de 5 ans renouvelable. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on n'imagine pas récupérer les manuscrits qui ont été restitués temporairement à la Corée. Donc je pense que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, cette expression « restitution temporaire ou définitive », c'est une façon d'ouvrir la voie à toute innovation juridique. Aujourd'hui, le patrimoine africain qui est déposé dans les collections nationales est protégé par ces piliers que sont l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité. Et il va falloir inventer des solutions pour aller dans le sens de cette déclaration. Donc effectivement, des restitutions temporaires, ça peut être un premier pas.
Oui, parce que sur les restitutions temporaires, on voit à peu près comment ça peut se passer. Pour les restitutions définitives, ça paraît quand même beaucoup plus complexe. Vous rappeliez la loi française. Avant de parler de l'aspect législatif, déjà, est-ce que vous comprenez que ça provoque une certaine émotion? Le sujet, visiblement, est loin de faire consensus.
Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu des réactions en France. Ça a suscité effectivement des réactions plus ou moins vives. En revanche, je n'ai pas entendu grand-chose des pays africains. À l'écoute de ce discours, j'ai vraiment imaginé que les pays africains allaient tous lever les bras et hurler « Hurrah !» Et j'ai vraiment été étonnée. À ma connaissance, il y a eu assez peu de réactions. Le Bénin a réagi, mais le Bénin est depuis longtemps dans une logique gouvernementale, dans une logique de revendication et de partenariat important avec le musée du Quai Branly notamment. Donc, c'est assez logique qu'ils aient réagi rapidement. En revanche, les autres pays d'Afrique, à ma connaissance, n'ont pas énormément réagi à ce discours. Du côté de la France, il y a eu des réactions, mais assez discrètes, même si les uns et les autres se demandent comment on va pouvoir mettre en place, dans les 5 ans qui viennent, des restitutions temporaires ou définitives. Pour l'instant, on est un peu dans un état de sidération. Je pense que personne ne s'attendait à une ouverture aussi fracassante. Et que les conservateurs sont un peu dans l'attente de la suite. Parce qu'une fois que le président Macron a ouvert cette porte, il va falloir mettre les moyens en place pour réfléchir, pour faire un inventaire de ce qui peut être restitué, de ce que les pays africains éventuellement voudraient se voir restituer, puisque pour l'instant, il y a quand même assez peu de revendications. Il y en a, mais il y en a assez peu. À qui les restituer ? Là, il faut faire un travail scientifique très important pour relocaliser le lieu de création de ces objets, constater qui aujourd'hui est sur place et qui est susceptible d'avoir une certaine légitimité à recevoir ces restitutions.
Vous parliez de tout ce que ça soulève, ces restitutions. Les restitutions permanentes, c'est un sujet extrêmement complexe. Question simple, Corinne Herskovitch, comment fait-on concrètement pour restituer son patrimoine à un pays, sachant que la loi française s'y oppose aujourd'hui.
Oui, dans le cadre légal aujourd'hui en France, ça ne me paraît pas possible de restituer le patrimoine africain pour plusieurs raisons. D'abord, c'est inscrit sur les inventaires des collections nationales, donc ce sont des trésors nationaux. Et il faudrait, dans certains cas, faire appel à la commission de déclassement. Mais la commission de déclassement n'est pas toujours en capacité de pouvoir se prononcer sur un déclassement, puisqu'on ne peut pas déclasser un objet qui a été donné à une institution publique. Là, il faut vraiment une loi. Vous savez, le droit ne fait que traduire les réflexions d'une société. Donc c'est pour ça que je parlais d'abord de toute la réflexion qui doit être menée sur les aspects scientifiques, les aspects de dialogue entre les uns et les autres, et le droit s'adaptera à partir du moment où la société aura décidé qu'il faut restituer.